Salut à toutes et à tous, bonjour et bienvenue dans Questions aux sénateurs, c'est votre rendez-vous hebdomadaire d'Acropolis et de Public Sénat. Bonjour à vous si vous nous regardez sur Public Sénat en replay, bonjour à vous si vous nous regardez en direct sur Acropolis sur Twitch et bonjour à vous si vous nous écoutez en podcast. Aujourd'hui on a le plaisir de recevoir Claude Maluret. Bonjour Claude Maluret.
Bonjour.
Ça va, bien installé?
C'est confortable.
C'est
ouais.
Sympa, et bien écoutez, tant mieux parce qu'on va passer une heure ensemble, apprendre à vous découvrir et à vous connaître. Merci d'avoir accepté notre interview.
Merci à vous.
Je précise que vous êtes sénateur de l'Allier, mais pas seulement. On va prendre le temps d'en parler. Surtout, c'est vous qui allez poser vos questions à Claude Maluret, notre invité aujourd'hui. N'hésitez pas donc à lui poser vos questions sur l'actualité, sur son parcours, sur ce qu'il fait au Sénat, dans le chat. Vous êtes sénateur président du groupe Les Indépendants au Sénat. Vous allez avoir l'occasion de nous en parler. Mais du coup, si on devait vous situer dans un axe politique, on dirait que vous êtes indépendant, proche d'Emmanuel Macron ?
On est indépendant et constructif. C'est-à-dire, indépendant, ça veut dire qu'on vote rien par obligation et on ne vote pas contre par dogmatisme. On est libre de nos votes. Et on est constructif parce qu'on n'est pas l'arrière-boutique d'Emmanuel Macron. On n'est pas ni à En Marche ni dans son arrière-boutique. Mais quand il propose des bonnes réformes, des bonnes lois, on les vote. Quand il propose des lois qui ne nous paraissent pas les bonnes... Donc on est exactement... Le mot d'indépendant résume totalement la ligne du groupe.
D'accord, très bien. C'est à l'Assemblée nationale, on n'a pas l'habitude de ça. La notion d'indépendance, c'est propre au Sénat, peut-être.
C'est-à-dire que à l'Assemblée nationale et le Sénat, c'est différent. C'est pas très différent, mais c'est différent. L'Assemblée nationale, si je caricature, c'est deux armées en face l'une de l'autre.
C'est vrai.
La majorité, l'opposition. Vous regardez ça le mardi ou le mercredi, vous les voyez s'écharper, etc. Ce qui donne d'ailleurs souvent une image pas très, très, très bonne. Mais enfin, voilà, vous avez une majorité, une opposition, et c'est très dur entre eux, généralement. Et depuis que Macron a changé le paysage politique, des oppositions des deux côtés. Mais traditionnellement, c'était la droite, la gauche, etc. Au Sénat, c'est beaucoup plus calme, c'est beaucoup plus réfléchi. Il arrive que des lois soient votées à l'unanimité. Il arrive un peu moins souvent que la droite et la gauche... Aucune partie de la droite et de la gauche vote. On est plus sur du pragmatisme que sur de l'idéologie. On étudie la loi en profondeur. Je ne dis pas que l'Assemblée ne les étudie pas en profondeur. Mais enfin, on est plus sur la loi que sur dire est-ce qu'on est pour ou contre le gouvernement. Et sur des lois, il peut nous arriver de nous retrouver. Par exemple, ce matin, j'étais en commission, on examinait une loi qui va passer contre les contenus haineux sur Internet,
oui.
Eh bien, les différences entre les uns et les autres, c'est compliqué parce qu'il y a du pour et du contre, mais les différences entre les uns et les autres ne reflétaient pas du tout
c'est pas
droite et gauche.
D'accord.
Voilà, c'est un petit peu différent. Donc nous, dans ce paysage, vous me demandez où on se situait, on est grosso modo au centre et on n'est ni dans un parti ni dans un autre a priori.
On va parler du Sénat, on va parler de vous aussi, mais avant je voudrais qu'on parle de quelque chose d'actualité, demain. Demain, c'est un jour de grève nationale, interprofessionnelle contre la réforme des retraites.
J'avais remarqué.
Une grève, voilà, je crois qu'on l'a tous remarqué, une grève qui s'apprête à être très suivie, d'après les premières informations qu'on en a. Est-ce que vous comprenez les grévistes et les manifestants? Est-ce que vous soutenez leur mouvement?
Alors, je comprends, bien sûr, pour différentes raisons dont on pourra parler tout à l'heure. Est-ce que je soutiens? Non, dans la mesure où je suis pour cette réforme.
Vous êtes pour la réforme des retraites.
Je suis pour cette réforme. Ou du moins, je suis conscient de la nécessité absolue d'une réforme. Pour une raison très simple, c'est que ça ne peut pas aller plus loin pour des raisons financières. Pour une autre raison, c'est qu'il y a des disparités énormes entre les uns et les autres. Certains partent à la retraite à 52 ans, d'autres partent à 65 ans, avec des raisons historiques, mais qui aujourd'hui ne tiennent plus. Certains partent à la retraite avec 75% de leur dernier salaire, d'autres partent avec 50% du salaire de l'ensemble. Donc certains touchent beaucoup plus de retraite par rapport à avant. Donc il y a des tas de raisons pour lesquelles une réforme est nécessaire. Maintenant, je comprends la façon dont elle est annoncée, ou plutôt pas annoncée.
Parce qu'on ne la connaît pas encore précisément, connaît le rapport de Levoy et ce que va être la philosophie de cette réforme.
Tout à fait. Mais le problème, c'est que chaque catégorie qui va être impactée par la retraite ne sait pas s'ils vont être gagnants ou s'ils vont être perdants. Et par conséquent, je comprends l'anxiété des gens.
Ils anticipent le fait d'être perdants, en nivellement par le bas, c'est
voilà. Ce que j'entends beaucoup. Et donc, je comprends la retraite, je comprends la grève. Néanmoins, je pense d'une part que la réforme est nécessaire, et d'autre part, que si on doit faire grève, ce serait plutôt... après que la loi a été présentée, pour le moment on est dans les discussions, dans les négociations, il me semble que faire grève alors que le projet de loi n'a pas été présenté, même si je comprends l'anxiété, c'est un petit peu paradoxal. Il me semble qu'il vaut mieux faire grève le jour où on annonce exactement les mesures pour savoir si vous êtes touché ou si vous n'êtes pas touché.
Est-ce que, selon vous, est-ce que vous êtes d'accord avec le gouvernement pour dire que c'est une grève corporatiste pour protéger les régimes spéciaux ? C'est un élément de langage qu'on a beaucoup entendu ces derniers jours.
Alors, c'est pour certains, c'est une grève corporatiste pour protéger les régimes spéciaux, oui. Pour d'autres, c'est une grève, par exemple, je pense aux enseignants, je pense aux avocats, je pense à un certain nombre d'autres secteurs qui sont apparemment... menacés d'avoir des avantages perdus dans cette retraite. Donc, une partie défend des droits qui paraissent normaux et qui sont acquis, une autre partie, franchement, et effectivement, me paraît corporatiste et de nature à défendre des régimes spéciaux qui, aujourd'hui, ne me paraissent plus justifiés.
Il y a l'Auvergnate qui vous demande dans le chat, est-ce que vous avez peur de la grève de demain ? Est-ce que vous pensez qu'on va revivre 1995 ? À l'époque, Alain Juppé, réforme des retraites.
Je ne sais pas pourquoi on aurait peur d'une grève. Enfin, je veux dire, je n'ai jamais vu, ou en tout cas rarement, une grève s'en prendre, surtout quand elle est dirigée par des syndicats qui sont quand même responsables. J'ai rarement vu une grève s'en prendre physiquement aux gens. Je ne sais pas ce que notre ami veut dire par peur, mais s'il y a un sentiment que cette grève ne m'inspire pas, on peut être pour ou on peut être contre, s'il y a un sentiment que cette grève ne m'inspire pas, c'est la peur. Ce n'est pas un sentiment auquel j'aurais pensé. C'est une grève, puis voilà.
Il s'est passé quelque chose au Sénat ces derniers temps, notamment Didier Guillaume, l'actuel ministre de l'Agriculture, reproche aux socialistes de manifester à côté du Rassemblement national.
Demain. Écoutez, pour tout dire, j'avais pas la notion que le Rassemblement national avait appelé à manifester.
Alors, Stanislas Guérini, le patron de la République En Marche, également a fait ce reproche-là, de dire Marine Le Pen a appelé effectivement les sympathisants du Rassemblement national à rejoindre le mouvement de contestation, sur des arguments notamment autour de l'immigration, sur le fait qu'il va falloir des immigrés pour payer. Voilà. Didier Guillaume, lui aussi, s'en est pris aux socialistes. Ouais. Sachant que Didier Guillaume, ça ne manque pas de piquant, c'est l'ancien président du groupe socialiste au Sénat.
Oui, mais il l'a quitté parce qu'il n'était plus d'accord, donc on peut comprendre.
Là, il y va franchement. Il reproche à ses anciens collègues du Sénat.
Il faut dire que si vous venez au Sénat de temps en temps, quand Didier Guillaume vient, ses anciens collègues ne le ménagent pas. Je peux vous dire.
Évidemment,
ils ne sont pas contents du tout qu'il les ait quittés. Moi, je n'étais pas au courant d'une manif commune. Je savais que Marine Le Pen avait appelé à se joindre au cortège. On connaît les manifestations. Elles sont quand même, quand elles sont organisées par les syndicats et les partis, c'est quand même très... Donc, je n'imagine pas que les socialistes et le RN vont défiler sous la même bannière. Donc, voilà, c'est un argument politique. Moi, en tout cas, je n'irais pas si je faisais grève, ce que je ne fais pas, si je manifestais, ce que je ne ferais pas. Et il est vraisemblable que je n'irais pas manifester avec le FN.
Et une question de Charles qui vous parle du régime spécial des sénateurs.
Oui.
Est-ce que les sénateurs ont un régime spécial de retraite ?
Oui, et ils font partie des régimes spéciaux, des 42 régimes spéciaux. La différence, c'est que les sénateurs ont des régimes... Enfin, la différence avec certains, c'est que les régimes spéciaux des sénateurs ne sont pas financés, ne sont pas déficitaires et financés par le contribuable. Donc, on ne gêne personne, si je peux dire. On organise nous-mêmes depuis plus d'un siècle notre système de retraite. Et par conséquent... Mais je dis pas
est-ce
ça
qu'il va être supprimé,
ce régime ? Je dis pas ça pour me défiler. Bien entendu que si la réforme des retraites est votée, le Sénat devra s'appliquer comme l'Assemblée, comme tout le monde, comme tous les régimes spéciaux, puisque ce sera la loi, et il n'y a pas de raison qu'on garde, nous, un régime spécial si tous les régimes spéciaux sont abolis.
Bon, dont acte. On va parler de vous, Claude Maluret. Vous avez un parcours atypique, je vous le disais tout à l'heure, avant qu'on prenne l'antenne, je vais avoir du mal à résumer votre parcours, mais on va en parler. Médecin humanitaire d'abord, président de Médecins Sans Frontières, avocat, ancien maire de Vichy, secrétaire d'État chargé des droits de l'homme en 86, entrepreneur, vous avez cofondé doctissimo.fr, et aujourd'hui sénateur, président du groupe Les Indépendants. Vous êtes quelqu'un de très engagé, un gros parcours d'engagement quand même.
Oui, il y a des gens qui... et un parcours éclectique.
Oui, c'est mon
Donc il y a des gens qui aiment bien faire ça, une carrière toute leur vie et puis rester dans les rails. Puis il y a des gens qui aiment changer de temps en temps. Moi, au bout de quelques années, quand je fais quelques... J'aime bien commencer les aventures, commencer les entreprises, etc. Et puis au bout de quelques années, une fois que c'est sur les rails, j'aime bien passer à autre chose parce que j'aime bien la nouveauté. Donc voilà, j'ai un parcours éclectique, effectivement, et en même temps un parcours à l'envers. Parce que la plupart du temps, quand vous faites de la politique, vous commencez conseiller municipal, conseiller général, maire, député, éventuellement ministre.
Et vous, ça a été
ministre ?
Moi,
j'ai commencé par ministre et après, j'ai été maire.
Ministre en 1986, je le disais, secrétaire d'État chargé des droits de l'homme.
Oui.
C'était la première fois qu'il y avait un secrétaire d'État aux droits de l'homme.
C'était la première fois qu'il y avait en France un secrétaire d'État aux droits de l'homme. Il y en avait dans un certain nombre de pays à l'époque et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'on a pensé à l'acclimater en France. Il y en avait aux États-Unis, il y en avait en Argentine, il y en avait dans d'autres pays. Et ça nous avait paru, à l'époque, il faut se remettre dans le contexte des années 80. Aujourd'hui, les droits de l'homme, c'est quelque chose qui est plus problématique qu'avant. Le droit de l'hommisme a été contesté, etc. Mais à l'époque, c'était vraiment avec des organisations comme Médecins sans frontières. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai été nommé ministre des droits de l'homme, parce que j'étais président de Médecins sans frontières, ou Amnesty International, ou avec d'autres. C'était le début de ces organisations qui ont pris une importance considérable. Et voilà la raison, si vous voulez.
Vous l'avez rappelé vous-même, vous avez été président de Médecins sans frontières. Est-ce que vous pouvez nous raconter cette histoire ? Comment vous êtes devenu président de Médecins sans frontières ? Vous étiez médecin vous-même ?
J'ai été médecin, ça a commencé très simplement. À l'époque, on faisait un service militaire, figurez-vous.
On a parlé.
Faire service militaire d'un an, mais quand on était médecin, on pouvait le faire... le service militaire, vous allez dans une caserne, c'est pas très intéressant. On parle aujourd'hui du service national universel, mais ce sera pas du tout la même chose. Bon, le service militaire, c'était plutôt un pinsum qu'autre chose pour la plupart des gens de 18 ans.
Hein. C'est-à-dire un pinsum
Un pinsum, c'est-à-dire que vous saviez que vous allez passer un an dans une caserne,
oui, d'accord.
À faire de l'entraînement, etc. Mais enfin, c'est pas... les médecins, eux, d'ailleurs, le faisaient d'une façon un peu plus intéressante parce que, généralement, on les envoyait dans des hôpitaux militaires et donc ils continuaient un petit peu comme quand ils sont internes.
Oui.
Voilà, donc c'était... Okay. Mais il y avait aussi une autre possibilité, à l'époque, c'était la coopération. Et ça, c'était quelque chose de fantastique pour les médecins, pour les enseignants aussi. Vous pouviez faire votre service militaire... à l'étranger, dans des pays du tiers-monde, dans des pays qui n'avaient pas de médecins. C'était la coopération française. Et il y avait un inconvénient, mais pour moi, ça n'en était pas un, c'est que vous faisiez 2 ans au lieu d'un. Mais 2 ans dans un environnement extrêmement intéressant, utile, etc.
D'accord.
Donc et vous aviez 3 possibilités avec la coopération française. Vous pouviez aller au Maghreb, en Afrique noire ou dans le reste du monde. Donc j'ai fait une application, j'ai dit ok, je vais faire la coopération. J'ai demandé le reste du monde. À l'époque, j'avais pas d'argent pour voyager et tout. Je me suis dit, je vais aller le plus loin possible.
Voilà.
Et en deuxième, j'ai demandé l'Afrique noire. Et en troisième, j'ai demandé le Maghreb. Parce que c'était plus près et que je pouvais y aller facilement si je voulais. Donc évidemment, j'étais envoyé au Maroc.
D'accord.
Et là, j'ai trouvé quelque chose de fantastique. C'est-à-dire, d'une part, un endroit... J'étais le médecin-chef de la circonscription d'El Aaiun, près d'Oujda. Médecin-chef, ça veut dire seul médecin.
Oui.
Pour 100 000 habitants. C'était une zone de 100 000 habitants. J'avais un petit hôpital et tout. Mais il y avait une équipe d'infirmiers marocains qui était franchement exceptionnel, qui avait l'habitude de travailler la moitié du temps sans médecin, parce qu'entre 2 coopérants, souvent, il se passait 1 an avant qu'il y en ait un. Et donc, j'ai passé 2 ans, pas tout à fait 2 ans, dans cette circonscription de l'Est du Maroc. L'Est, c'est vraiment le point le plus reculé. Oujda, c'est la province où on en voit un peu...
Oui, oui.
Voilà. Et j'ai découvert ce que c'était que les vraies pathologies. C'est-à-dire que les pathologies, les maladies que vous voyez ici à l'hôpital et tout, par rapport à ce que vous voyez là-bas, c'est décrit souvent. Enfin, pas toutes les pathologies. Il y a des gens qui ont la grippe au Maroc, mais vous en avez aussi qui ont des pathologies qui durent depuis des années et des années, qui n'ont pas
été soignées.
Que vous trouvez dans des livres de médecine d'il y a des dizaines d'années, qu'on ne voit plus.
Donc, on voit le début de Médecins sans frontières, c'est-à-dire l'idée d'une médecine.
Quand je suis rentré. Vous avez l'impression, quand vous travaillez à l'hôpital, vous avez l'impression d'être utile. Mais n'importe qui à côté de vous peut faire, n'importe quel interne peut faire le même boulot que vous, etc. Et il y en a des internes, même si aujourd'hui on manque de médecins en France. Mais quand vous êtes là-bas, vous savez que si vous n'y êtes pas, il n'y a plus de médecins pour personne. Donc vous avez l'impression d'être infiniment plus utile. Et quand je suis rentré en France, je me suis retrouvé à l'hôpital et je me suis dit que n'importe qui peut faire ce job. Bon, bref, immédiatement, surtout que j'avais vraiment découvert
la même chose que les autres,
une expérience fantastique avec ces infirmiers marocains, je me suis dit, je n'ai pas envie d'ouvrir mon cabinet, d'ouvrir ma salle d'attente, etc. C'est un beau métier d'être médecin, mais j'ai envie de...
Vous aviez le virus de la
coopération. Et un certain nombre d'autres médecins avec d'autres expériences que moi, mais enfin, à l'époque, il y avait beaucoup de coopération. À l'époque, les médecins français... Donc, un certain nombre d'autres médecins avaient un peu la même idée, d'autres avaient travaillé au Biafra, ça ne dit rien à personne aujourd'hui. Le Biafra, c'était une famine organisée par une révolte au Nigeria, une famine organisée qui avait... C'est la première fois que sur les écrans de télé français, c'était dans les années 60, 70, début des années 70, c'est la première fois que les Français découvraient à l'écran des images de ces enfants affamés, de ces réduits entourés par les militaires, etc., ce qui a fait un choc considérable. Bref, avec toutes ces expériences, un certain nombre de médecins se sont rassemblés, ont créé Médecins Sans Frontières, c'était en 71. Moi, je suis parti plusieurs fois avec Médecins Sans Frontières.
C'était Bernard Kouchner à l'époque qui a fondé Médecins Sans Frontières.
On était une douzaine.
Plusieurs, d'accord.
Il y avait Bernard Kouchner, il y avait Xavier Emmanuelli, qui a été ensuite ministre de l'Action Humanitaire également, qui est le fondateur du SAMU Social. Mm-hmm. Il y en a d'autres. Voilà, moi je suis parti essentiellement d'ailleurs, enfin un peu dans tous les pays, en Afrique, en Amérique centrale, dans certains pays d'Afrique, au Moyen-Orient, au Liban, etc., parce qu'il y avait les guerres civiles au Liban. Mais Saint-Sandre était plus spécialisé dans les camps de réfugiés, dans les guerres, dans les conflits que dans le développement. Et puis j'ai surtout travaillé en Extrême-Orient, c'était l'époque où les Cambodgiens, les Laotiens, les Vietnamiens, les Boat People fuyaient l'Asie, se retrouvaient en Thaïlande, en Malaisie, dans des pays qui aujourd'hui sont plutôt riches, moins riches que nous, mais plutôt aisés, mais qui à l'époque étaient pauvres et n'avaient pas non plus de services médicaux. Donc voilà, et quand je suis revenu de ces différentes missions, eh bien, j'ai été élu président, au bureau de Médecins Sans Frontières et l'année suivante président.
Du coup, voilà, Médecins Sans Frontières, vous l'avez dit, une ONG particulièrement habituée aux conflits armés notamment. Est-ce que vous avez vu les choses évoluer depuis, notamment sur les mutations des modèles de conflit, la lutte contre le terrorisme? Est-ce qu'on retrouve des crises humanitaires similaires à ce que vous avez connu à l'époque?
Pour un médecin, les choses ne changent pas. Les blessures sont toujours les mêmes blessures, les maladies sont toujours les mêmes maladies. Du point de vue du développement, les choses ont beaucoup changé. Vous avez 1 milliard ou 2 milliards, et ça c'est fantastique, les 30 dernières années, ont vu 1 milliard ou 2 milliards, les gens disent toujours ça va de plus en plus mal, ça va de plus en plus mal. Vous avez 1 ou 2 milliards de personnes, des Chinois, essentiellement en Asie d'ailleurs, ou en Amérique latine, qui sont sortis de la pauvreté absolue. Donc contrairement aux apparences qu'on a parfois, c'est un progrès fantastique du point de vue du développement. Je ne dis pas partout, je ne dis pas en Afrique ou ailleurs.
Et en termes de santé, alors?
Et en termes de santé, bien entendu, ça va avec. D'accord. Aujourd'hui, les populations qui sortent de la pauvreté sortent aussi de la maladie, même s'il reste encore beaucoup de choses à faire. Donc les choses ont évolué du point de vue du développement. En matière de conflits, vous avez toujours les mêmes camps de réfugiés épouvantables, vous avez toujours les mêmes blessures et pas de chirurgien pour opérer, etc. Donc de ce point de vue-là, les techniques sont restées les mêmes. Et les conflits... ont évolué avec une courbe un petit peu en S, c'est-à-dire que quand on a créé Médecins Sans Frontières, c'était l'explosion du nombre de réfugiés, l'explosion du nombre de conflits, c'était la fin de la guerre froide, qui l'URSS et les États-Unis se battaient par pays interposés, donc il y avait beaucoup de conflits. Pendant une période après la chute de l'URSS, évidemment, tout cela a beaucoup diminué, et depuis quelques années, que ce soit au Moyen-Orient ou ailleurs, les conflits réapparaissent. Donc, il y a à nouveau beaucoup de situations comme ça. Je dirais quand même qu'il y en a moins, toute proportion gardée, que dans les années 70.
En 1999, Médecins Sans Frontières a reçu le prix Nobel de la paix. C'était une consécration pour vous, pour cette ONG, ou c'était au contraire la reconnaissance qu'il y a un problème grave de santé autour des conflits armés?
Alors, nous, on l'a bien entendu vécu comme une consécration. Et on l'a même vécu comme une consécration tardive. Pourquoi? Parce qu'on a reçu le prix Nobel quand on n'en avait plus besoin. quand Médecins sans frontières s'est créé, au cours des premières années, il n'y avait pas d'argent. On était même souvent des mercenaires, entre guillemets, c'est-à-dire qu'on prêtait nos médecins à des associations, des grosses associations humanitaires anglo-saxonnes, parce qu'il n'y avait que ça à l'époque, il n'y en avait pas en France, des associations comme Oxfam, comme Save the Children, etc., à qui on fournissait des médecins. On n'avait pas les moyens, nous, de faire des missions. Et puis, petit à petit, on a mis sur place des programmes de fundraising, de collecte de fonds, on est devenu plus connu, plus riche, et on a pu faire nos propres missions. Mais dans les premières années, si on avait eu au bout de 10 ans le prix Nobel, ça nous aurait permis de nous développer considérablement. Quand on l'a eu en 99, Médecins sans frontières était déjà connu dans le monde entier et on avait beaucoup plus de facilité. Mais je ne vais pas vous dire que c'était désagréable de recevoir le prix Nobel.
Mais il y avait aussi, on est à la fin des années 90. Vous l'avez dit, tous ces conflits au moment de la guerre froide, les grandes famines aussi des années 90. Oui. C'était aussi une période très particulière du point de vue humanitaire. Il y avait un problème gravissime. Enfin, c'était...
Oui, mais très franchement, si vous allez aujourd'hui en République du Congo, en Afrique centrale, dans un certain nombre d'autres pays, vous avez, si vous allez au Moyen-Orient, vous avez une situation humanitaire catastrophique. Au Yémen, situation de semi-famine, vous en avez encore. Peut-être, je ne sais pas s'il y en a plus ou moins dans ces années-là, mais vous savez, ce genre de situation, elle existe toujours.
Il y a plusieurs personnes qui font référence dans le chat au fait que la France est un pays qui exporte des armes. Mmh. Est-ce que la France est un pays hypocrite dans le sens où il vend des armes d'un côté et d'un autre côté il envoie des médecins pour soigner les blessés par armes?
C'est-à-dire que c'est pas les mêmes qui envoient des armes et qui envoient des médecins.
C'est pas les médecins qui vendent des armes, c'est sûr.
Moi, je ne fais pas partie et un Médecin sans frontières, c'est une ONG, c'est-à-dire une organisation non gouvernementale, comme beaucoup d'autres, qui est une association.
Et donc, mais aujourd'hui, vous êtes au Sénat. Donc.
Oui, mais enfin.
Est-ce qu'en tant que sénateur, vous condamnez le fait que la France exporte des armes?
C'est un sujet complexe. Il y a un certain nombre d'armes qui ont été supprimées, notamment les mines antipersonnelles avec des organisations comme Handicap International et autres. D'un autre côté, le monde des bisounours, le monde tout le monde il est beau, c'est quelqu'un qui a soigné beaucoup de blessés de guerre qui vous le dit, le monde des bisounours il n'existe pas. Il faut d'abord, un pays comme la France doit avoir une armée, doit avoir des armes pour se défendre, un pays comme la France a des alliés, ça peut poser des gros problèmes si ces armes sont, et d'ailleurs, ça pose souvent des problèmes et les gouvernements sont souvent accusés si les armes servent à réprimer une population, par exemple. Mais que des pays doivent se défendre et qu'ils doivent utiliser des armes, ça fait partie de l'histoire des hommes et des conflits. On aimerait bien, on a créé pour ça l'ONU et différentes agences pour essayer de les diminuer. Il n'en reste pas moins qu'il y a des conflits, qu'il y a des armes, que la France a des alliés, que la décision politique, ce n'est pas la décision humanitaire. Je crois que c'est ça qu'il faut bien comprendre. Quand vous avez je reprends le problème des Balkans dans les années 90, pendant plusieurs années l'Europe n'a pas osé intervenir et les massacres en Bosnie, en Croatie, etc., la guerre civile s'est faite et donc les populations étaient massacrées. Un jour ou l'autre, Clinton aux États-Unis en a eu marre, alors que c'était quand même notre problème. Nous, on n'avait rien fait. Si, on envoyait des infirmiers, des infirmières, des militaires qui faisaient de l'humanitaire.
Donc c'est un peu l'autruche, quoi.
À l'époque, d'accord, on dénonçait ça. On disait, nous qui étions humanitaires, on disait, écoutez, nous, on peut faire le boulot et tout, mais n'envoyez pas, pour répondre à l'opinion publique qui veut qu'on fasse quelque chose, et comme vous êtes prêts à rien faire, je parle des gouvernements, vous envoyez des militaires qui font de l'humanitaire. C'est pas ça qu'il faut faire. Il faut faire arrêter la guerre, et pour faire arrêter la guerre, il faut envoyer des militaires. Un jour, Clinton en a eu assez. Il a décidé d'envoyer des avions, etc. Et la guerre s'est arrêtée assez rapidement parce que les massacreurs ont compris qu'ils ne pourraient pas continuer.
Au final...
Donc parfois, il faut des armes pour faire taire les armes. Donc les choses sont souvent extrêmement compliquées. C'est impossible en 5 minutes d'expliquer.
Je comprends l'argument. Qu'est-ce que vous retenez de tout ce parcours d'engagement dans l'humanitaire aujourd'hui, vous qui êtes sénateur, est-ce que ça vous est utile au quotidien? Est-ce que ça vous a fait voir le monde d'une certaine manière qui aujourd'hui vous aide à avoir des combats politiques particuliers?
C'est ce que je retiens le plus, c'est exactement ça. C'est-à-dire que quand vous revenez de ces endroits, vous voyez les choses d'une façon, vous voyez votre pays d'une façon complètement différente.
Alors comment?
D'abord, et on en revient à la grève de demain, par certains côtés. D'abord, vous avez parfois des revendications. Quand j'étais en Inde, par exemple, j'ai travaillé plusieurs mois en Inde dans la campagne d'éradication de la variole. Nous n'avions pas d'électricité. On avait un groupe électrogène les personnes sur place n'avaient dans le bled, c'était au Bengale, au nord de Calcutta, personne n'avait d'électricité. Il y avait de l'électricité une heure ou deux par jour. Et nous, on avait un groupe électrogène, on pouvait avoir un peu plus d'électricité. Quand je suis rentré en France, au bout de quelques mois, je n'avais pas de logement, je suis allé habiter chez des amis qui étaient en banlieue parisienne. Et puis un jour, ça, évidemment, vous ne vous en souvenez pas, c'était à la fin des années 70, il y a eu une grève, une panne d'électricité, un hiver, une panne d'électricité sur toute la France. À 7 heures du matin, tout le monde a allumé le chauffage, la lumière, etc. Et d'un seul coup, il y avait de la neige sur les caténaires, etc. Panne d'électricité sur toute la France. Toute la France. Je peux vous dire que les gens qui ont vécu ça, ça a marqué.
Je vois ce qui me fait penser à la grève de demain.
Aujourd'hui, on a oublié.
Côté blocage.
Et ça a été une explosion de colère. Ah bah. C'est-à-dire que moi, mes copains qui étaient là le matin au petit déjeuner, ils écoutaient la radio et tout, et on leur expliquait ce qui se passait, plus de courant. Et ils disaient tous, mais ce pays est un pays de merde. Une panne d'électricité sur toute la France, c'est quand même incroyable, etc. Et le courant a été rétabli dans 95% de la France en une heure. Dans les endroits un peu éloignés, montagnes, etc., dans deux ou trois heures. Et dans les derniers villages très isolés, 24 heures plus tard. Donc, pratiquement 100% de la France, cette panne. Vous imaginez ce que c'est qu'une panne avec tout ce qui, tous les réseaux qui sautent, etc. Ouais. On est obligé d'appeler l'Allemagne, la Suisse, la Belgique. Enfin, une sophistication incroyable pour qu'en une heure. Et mes amis et tous les Français disaient c'est un scandale, c'est un scandale.
Oui,
et moi, j'en aurais pleuré de joie, ouais. Mais j'en aurais pleuré d'émotion. Je venais d'un pays et c'était pas le seul. Il y avait pas que l'Inde. Il y avait des tas de pays du monde où les gens n'ont même pas d'électricité. Donc pas de matériel, pas de matériel électroménager et tout, rien. Et je disais, mais vous vous rendez pas compte, vous habitez, mais dans un pays être capable de rétablir ça en une heure, c'est un miracle. Vous ne pouvez pas imaginer.
Donc, c'est un peu un problème de riche, quoi.
C'est un exemple, mais ça, c'est sûr que vous voyez, bon, indépendamment de voir aussi d'autres cultures qui vous font relativiser votre culture,
d'accord,
mais ça vous fait relativiser beaucoup et avoir un nouveau regard sur votre pays.
Je fais un saut dans le temps, parce que après ce parcours d'engagement et d'humanitaire, on reviendra aussi sur votre parcours politique, mais vous êtes devenu entrepreneur. Entrepreneur, en 99, vous avez fondé le site doctissimo.fr, site très connu, je pense que les gens qui nous regardent le connaissent. On va en parler. Ça a été un grand succès. Aujourd'hui, il y a 10 millions de visites par mois. Comment vous êtes passé de l'humanitaire qui agit dans des pays en développement à entrepreneur sur Internet ?
Entre-temps, il y a eu quand même quelques étapes. Parce que moi, j'ai quitté Médecins Sans Frontières en 1986. J'ai été donc à l'époque nommé au gouvernement de cohabitation Chirac-Mitterrand, comme secrétaire d'État de l'Homme pendant 2 ans. Et au bout de 2 ans, j'ai eu à me poser la question, qu'est-ce que je fais ? Et d'abord, je ne pouvais pas retourner à Médecins Sans Frontières, comme Bernard Couchin ne pouvait pas retourner à Médecins du Monde. Parce que quand vous avez, c'est malheureux à dire, mais quand vous passez de l'humanitaire à la politique, vous êtes un peu un traître, vous devenez suspect, c'est dommage, la politique est mal vue, la politique c'est un art que je trouve noble quand on le pratique bien, mais
c'est vrai que
elle est mal vue. Et quand vous venez de l'humanitaire, vos copains vous disent, donc j'ai eu à choisir ce que je faisais après. Je pouvais refaire de la médecine différemment, etc. Mais quand j'avais été au gouvernement 2 ans et comme j'avais trouvé cette expérience intéressante, j'ai décidé de continuer en politique. Donc je me suis présenté aux élections, j'ai été maire, j'ai été député. Et puis, au bout de quelques années, dans les années 90, j'ai, comme tout le monde, comme tous les politiques, j'ai été banané lors d'une élection. Ça arrive dans une carrière politique. Donc je me suis retrouvé toujours maire.
97, si je ne dis pas de bêtises.
97, exactement. À l'époque, c'était comme en 2017, toute la majorité de l'époque a été balayée, donc il en est resté 50, je ne faisais pas partie des 50, donc j'étais toujours maire de Vichy, mais je n'étais plus député. Et donc, comme je n'aime pas faire, vous l'avez compris, faire toujours la même chose, etc.
Dans le cabinet de médecine en ville, ce n'est pas votre truc.
J'aime bien faire plusieurs choses à la fois. Il se trouve que, alors ça aussi c'est... Les gens qui nous regardent là et qui sont sur les réseaux sociaux ont certainement du mal à le comprendre. Mais je veux dire, les premiers, à l'époque, le premier navigateur Netscape à l'époque, date de 96. Avant, il n'y avait rien. Il n'y avait pas d'Internet. C'était, il y avait l'Internet pour les scientifiques, mais il fallait qu'ils tapent du code pour pouvoir échanger entre eux. C'était des textes, pas des images et tout. Et puis d'un seul coup, en 96, vous avez ce truc-là qui arrive. Qui a commencé à se répandre dans les années, au début des années 2000, mais en 96. Et moi, j'avais des amis qui étaient des scientifiques et tout, qui m'ont expliqué de quoi il s'agissait. Et ça m'a fait le même choc que la coopération au Maroc qui m'a décidé à aller à Médecins Sans Frontières et changer 15 ans de ma vie. D'un coup, je me suis dit, ce truc-là, c'est l'avenir.
Internet, c'est l'avenir. Oui.
Internet, c'est l'avenir. Et donc, j'ai contacté, j'avais un ami qui était Laurent Alexandre, donc le
On va en parler.
Médecin. Je suis allé, il avait une petite boîte qui faisait des sites, à l'époque, des sites Internet pour les laboratoires. C'était. Faut voir
c'est
ce que c'était
oui,
que d'aller sur Internet. Vous ramiez pendant des minutes avant d'avoir quoi que ce soit. Vous preniez des crises de nerfs tout le temps. Bref, je lui ai dit, est-ce que je peux travailler avec toi dans ton équipe pendant quelques temps. Et puis j'ai travaillé dans l'équipe pendant quelques temps. Et au bout de quelques temps, je me suis dit, bon, ça suffit les sites Internet pour les laboratoires pharmaceutiques. C'est bien beau, mais c'est pas intéressant. En revanche, aux États-Unis, il y avait parce qu'ils avaient à l'époque 5 à 10 ans d'avance sur nous, ou en tout cas au moins 5 ans d'avance sur nous, il y avait des portails santé. Et comme c'était les États-Unis, il y en avait 10 ou 20 avec des millions de gens déjà devant les... Et donc je me suis dit, c'est ça qu'il faut faire. Il n'y en a pas en France.
Un portail santé pour tout le monde.
Un portail santé pour les Français. Et donc j'ai passé 6 mois sur tous les portails santé américains, j'ai regardé ce qui me plaisait, ce qui ne me plaisait pas, etc. Et à partir de ça, j'ai rien inventé moi-même, j'ai fait un site entièrement à partir de ce que je regardais sur les portails américains. On a été, effectivement, à l'époque, tout le monde démarrait, toutes les start-up démarraient, et il y avait, en France, il y en a une dizaine de sites identiques à Doctissimo qui se sont lancés. Je me permets de
vous
penser que Doctissimo était le meilleur.
Vous êtes les seuls à avoir survécu à la bulle Internet.
Voilà, je crois vraiment que c'était le meilleur pour des tas de raisons qui sont trop longues d'expliquer. Mais voilà, dans ce système darwinien qui était les startups de l'époque, c'est Doctissimo qui a survécu et qui, par conséquent, effectivement, a aussi survécu à la bulle Internet, ce qui était beaucoup plus compliqué parce qu'en 2003-2004, quand la bulle Internet a crevé,
beaucoup de sites
même
ont
les bons,
ouais, même
des
les bons,
même des bons sont morts.
Vous l'avez dit vous-même, vous avez cofondé Doctissimo avec Laurent Alexandre. Alors Laurent Alexandre, il fait beaucoup de débats en ce moment.
Oui.
Voilà, c'est une personnalité très clivante sur Internet. Beaucoup de gens dans le chat me demandent depuis tout à l'heure, est-ce qu'il va nous parler de Laurent Alexandre. Voilà, qu'est-ce que vous pensez de Laurent Alexandre? Il fait beaucoup de sorties très polémiques quand même dans les médias.
Laurent Alexandre a toujours été un provocateur. Je ne dis pas ça dans le sens, je ne dis pas que c'est bien ou mal. Je dis qu'il aime provoquer, qu'il aime faire passer les idées en provoquant. Il y a des gens qui aiment pas faire passer les idées en expliquant. Et c'est plutôt comme ça que je suis. Il y a des gens qui aiment faire passer les idées en stimulant, en provoquant, etc. Par exemple, Macron, c'est pareil. Il dit des petites phrases,
c'est
etc. Il y a des gens qui disent c'est vrai, c'est une super petite phrase. Et puis d'autres gens qui disent.
Laurent Alexandre, Emmanuel Macron, j'y avais pas pensé.
On ne peut pas supporter ces petites phrases. Donc vous êtes obligatoirement clivant quand vous êtes provocateur. Laurent Alexandre, c'est un personnage quand même assez particulier. Il est chirurgien et énarque. Ouais. Ce qui est quand même lui aussi un parcours et entrepreneur maintenant avec Doctissimo. On n'est plus à Doctissimo ni l'un ni l'autre, mais il est maintenant incubateur de start-up, etc. Donc c'est quelqu'un qui, un peu comme moi de ce point de vue-là, a pas mal de cordes à son arc et qui aime bien changer au fur et à mesure. C'est quelqu'un d'une intelligence exceptionnelle, d'un QI exceptionnel. J'ai pas mesuré son QI, mais bah, j'ai travaillé avec lui. Et la boîte qu'il avait lancée à l'époque, moi je vous disais, je découvrais le premier navigateur Internet et tout, lui avait déjà créé sa boîte.
D'accord.
C'est quelqu'un qui va à une vitesse exceptionnelle. Et qui, comme il va à une vitesse exceptionnelle, comme il est provocateur, parfois il va trop vite, parfois il va... mais en général, ce qu'il dit est sinon toujours juste, du moins toujours pertinent, c'est-à-dire que ça vous donne immédiatement... Quand vous discutez une heure avec Laurent Alexandre, vous avez 10 idées à la suite, et il vous fait corriger des idées que vous aviez, où vous dites, oui, zut, j'avais pas réfléchi à... Mais pour le reste, je conçois que c'est... Et je dirais pas qu'on s'est perdu de vue, on était encore au Sénat ensemble il y a quelques jours, mais on ne travaille plus ensemble depuis plusieurs années, je suis ses livres, Je vois bien que dans ces livres, il y a des choses avec lesquelles on peut être d'accord et pas d'accord. Et quand on n'est pas d'accord, vu qu'il les exprime de façon très frontale, je comprends qu'il y a des tas de gens qui disent.
C'est clivant. Récemment, il a déclaré en audition que, selon lui, l'échec scolaire est en grande partie dû à la génétique, à des facteurs génétiques.
Oui.
Ça a beaucoup fait réagir. C'est quand même très violent, comme.
J'étais là dans cette audition puisque c'était au Sénat.
Je me suis posé la question. C'était
et
au Sénat.
Et donc j'étais en face de lui avec un certain nombre de sénateurs puisque le sujet c'était comment améliorer la formation, l'éducation pour l'emploi, etc. Donc je l'ai vu. Sa thèse est simple. Elle consiste à dire, comme tous les sujets humains, l'éducation c'est une ou l'intelligence c'est une partie génétique et c'est une partie sociale. Deux jumeaux identiques mis dans des familles différentes n'auront pas les mêmes performances, mais de la même façon, il y a aussi une partie génétique. Or, notre société a tendance, probablement à la suite des problèmes du nazisme, des problèmes d'eugénisme, etc., qui ont concerné toute une génération, à être très prudent et très, très prudent vis-à-vis de la génétique et à expliquer que le plus grand déterminisme est social et non pas génétique.
En Europe,
lui, voilà.
Lui prend le contre-pied de ça.
Lui, il dit, comme tout le monde, je ne suis pas en train de le défendre, mais je suis en train d'expliquer calmement ce qu'il a raconté ce jour-là. Il dit, comme tout le monde, la part... aujourd'hui, on a tendance à penser que la part sociale de l'acquisition de l'intelligence, etc., représente 80%. Moi, je dis, dit-il, à la suite des travaux d'un Anglais qui s'appelle Plomin, dont je n'ai pas regardé les travaux, mais lui qui les a regardés dit, Plomin a prouvé que dans ce déterminisme, c'est 60 génétiques, 40 sociales, et que c'est pas 80 sociales et 20 génétiques. Donc voilà ce qu'il n'a pas dit, évidemment, l'intelligence est purement et à 100% génétique, etc. Donc, il s'est fait, évidemment, immédiatement contrer par un sénateur communiste qui, lui, pense exactement le contraire, mais pour des raisons idéologiques plus que scientifiques, et qui lui a dit, mais enfin, alors vous voulez dire que on ne peut pas améliorer, à quoi ça sert l'éducation dans ces conditions, etc. Mmh. Il lui a répondu quelque chose d'assez amusant. Il lui a dit, je dis exactement le contraire. Et il a pris l'exemple de la leucémie de l'enfant. La leucémie de l'enfant tuée à 100%, il y a encore 20 ou 30 ans. Petit à petit, la médecine, elle est à 100% génétique. Petit à petit, la médecine a réussi à trouver quels étaient les gènes, etc. Et aujourd'hui, il n'y a plus un enfant, ou pratiquement plus un enfant dans des pays comme le nôtre, qui meurt d'une leucémie. Et pourtant, la leucémie, c'est génétique. Et Alexandre lui dit, moi, ce que je veux, c'est savoir la vérité, parce que si c'est 60% de génétique, ça veut dire qu'on peut, de la même façon, qu'on peut faire des recherches de la même façon sur l'intelligence que sur la leucémie de l'enfant.
Et on peut améliorer l'être humain par la génétique.
Voilà. Alors, ça pose des problèmes moraux majeurs, éthiques majeurs, mais ce n'est pas... et je comprends que des gens se disent, mais il dit des bêtises. Je pense que c'est plus sophistiqué que ça.
D'accord.
Et qu'après tout, il faut considérer, essayer de se rapprocher de la vérité scientifique le plus possible.
Bon, l'heure tourne, on ne va pas passer notre temps à parler de Laurent Alexandre, même si on aurait encore beaucoup de choses à en dire. Je voudrais qu'on parle de vous et du Sénat. Donc je le disais tout à l'heure en introduction de cette émission, vous êtes président du groupe Les Indépendants au Sénat. C'est le plus petit groupe du Sénat. Vous avez combien de sénateurs ?
13.
13. Est-ce que vous pouvez en profiter pour nous rappeler ce que c'est qu'un groupe au Sénat ?
Alors, au Sénat, vous avez 348 sénateurs et vous avez des sénateurs qui appartiennent à des partis politiques différents. Mmh. Tout le monde comprend bien ça. Ces partis politiques, ils ne sont pas directement... ils ont un siège, etc. Mais pour s'exprimer au Sénat, ils s'expriment à travers un groupe. C'est-à-dire sur 348, vous avez 150 à peu près sénateurs qui sont LR, qui constituent la majorité. Vous avez 50 sénateurs centristes, 70 socialistes, etc. Et puis vous avez d'autres groupes, les communistes. Et vous avez au milieu de l'hémicycle, un groupe comme le nôtre, deux ou trois groupes qui sont des groupes du centre. Donc c'est à travers ces groupes, les groupes, si vous n'êtes pas rattaché à un groupe, vous ne pouvez pas parler au Sénat. Donc vous parlez au nom de votre groupe. Mmh. Vous parlez parfois en votre nom personnel, mais la plupart du temps au nom de votre groupe politique, parce que le Sénat, comme l'Assemblée nationale, c'est là pour faire de la politique.
Oui, oui, bien
donc
sûr.
Tout ça est organisé et on est, les partis politiques sont représentés au Sénat par des groupes. Donc vous avez au Sénat des groupes politiques, vous avez des commissions où il y a tous les sur des thèmes social, finance, etc., où il y a tous les groupes représentés, et puis vous avez l'Assemblée générale dans l'hémicycle.
Votre groupe donc est plutôt sur une ligne libérale, pro-européenne,
oui.
sociale.
Oui.
C'est un groupe donc dans la majorité sénatoriale plutôt à droite, mais constructif vis-à-vis du gouvernement. C'est ce que vous nous expliquiez tout à l'heure. Mm-hmm. Est-ce que vous vous retrouvez dans le clivage que Emmanuel Macron essaye de mettre en place, populisme, progressisme ?
Alors. Oui et non. Premièrement, ce clivage, c'est pas Macron qui l'a déterminé. Qu'il s'en serve, c'est une chose. Bon. Stratégiquement, c'est son problème. Mais populisme progressiste, c'est exactement ce qui est en train de se passer partout. L'AFD en Allemagne, les pays d'Europe de l'Est, Salvini en Italie, le Brexit, Trump aux États-Unis, vous avez aujourd'hui de toute évidence des partis populistes qui sont en train d'ailleurs de menacer les démocraties. Il reste de moins en moins de démocraties dans une ère comme l'Europe. Vous avez donc effectivement d'un côté des partis populistes, des partis extrémistes, le FN en France ou la France insoumise, que je considère aussi comme un parti populiste, et vous avez des partis. Alors, la différence. Donc, ça, c'est pas Macron, c'est partout, et c'est un vrai problème pour l'avenir de nos démocraties. Et deuxièmement, la différence que j'ai avec Macron, c'est que je dis pas populiste progressiste, je dis populiste démocrate. Parce que au nom du progrès, j'ai passé 15 ans de ma vie à Médecins sans frontières. À aller réparer les blessés, les morts, tous ceux qui ont été cassés par des idéologies qui ont prétendu, au nom du progrès, faire le bien de l'humanité. J'ai vu partout ce que c'était qu'on appelait le progressisme. Alors, il y a différents progressismes. Je pense que quelqu'un qui est de centre-gauche ou de gauche en France et qui se considère comme progressiste. Mais moi, j'ai vu ce que c'était que les progressistes qui aboutissaient à des régimes totalitaires. J'ai passé 15 ans de ma vie là-dedans.
Vous parlez du régime soviétique ?
Oui, bien sûr, de la Chine, des 100 millions de morts chinois. Enfin, 50 millions pendant la Révolution culturelle, 50 autres millions avec d'autres. Donc, je n'emploie plus
le mot progressisme,
l'idéologie
vous,
du progrès. D'ailleurs,
ça
on le voit bien aujourd'hui.
À travers
le développement durable, à travers l'écologie, on voit bien aujourd'hui que le mot de progrès, pour d'autres raisons, que le mot de progrès n'est plus... Jusqu'à Auguste Comte ou jusqu'au début du XXe siècle, etc., le progrès, on ne parlait que de ça. Aujourd'hui, on commence à revenir en se disant que le progrès n'est pas obligatoirement quelque chose de mieux. Le progrès, c'est peut-être plus, mais ce n'est pas obligatoirement mieux. Et moi, j'ai vécu des progressismes, entre guillemets, qui sont nettement moins bien. Et j'ai vu tous les morts sur place.
Donc clivage populisme-démocrate.
Je dirais démocrate-populiste, oui, il existe. Et il existe dans beaucoup de pays aujourd'hui. Et donc, ce n'est pas Macron qui l'a inventé. Maintenant, évidemment, il est aujourd'hui dans une situation où il est de facto, il a de facto un parti comme En Marche qui l'appelle progressiste, que moi j'appelle démocrate, et de l'autre côté, très fortement, des contradicteurs qui sont aujourd'hui malheureusement extrêmement forts, qu'ils soient à l'extrême droite ou à l'extrême gauche. Ce clivage existe, oui.
On parlait tout à l'heure de provocation. Vous aussi, vous êtes provocateur. Vous êtes connu pour des discours mordants. Je pense notamment au discours du 15 juin dernier où vous avez taclé les Gilets jaunes, que vous avez appelés les gouverneurs de rond-point. Vous avez taclé Jean-Luc Mélenchon en appelant le leader minimo soumis à Cuba. De la France soumise à Cuba. Vous avez parlé du quinquennat de François Hollande en disant restaurant ouvrier, cuisine bourgeoise.
Oui, c'est pas vrai.
Eh bien, c'est à vous de me dire, justement. Parce que vous y allez pas avec le dos de la cuillère, hein, sur justement ce que vous appelez le populisme.
Oui. Écoutez, je viens de vous expliquer, le populisme pour moi mène un jour ou l'autre à la dictature et au totalitarisme. Je suis allergique à ça parce qu'une bonne partie de ma vie a été consacrée, a été d'être le témoin de choses insupportables. Donc je suis allergique par, non pas par génétique, comme on disait tout à l'heure, mais par expérience à tous les populismes. Et par conséquent, oui, je me gêne pas. Écoutez-les. Enfin, je veux dire, je suis bien moins violent envers Mélenchon que Mélenchon ne l'est tous les jours dans ses discours vis-à-vis du pouvoir, vis-à-vis des uns et des autres. Je suis beaucoup moins violent que le Front National ne peut l'être par rapport aux démocrates, etc. Dire de Mélenchon c'est le leader minimo de la France soumise à Cuba, c'est une ironie. Comment aujourd'hui un certain pourcentage des Français peuvent encore voter pour quelqu'un qui défend la révolution bolivarienne. Enfin, c'est voilà. Je pense
non, mais en tout cas, ça fait beaucoup réagir le chat. Voilà, il y en a un certain nombre qui sont d'accord, d'autres pas d'accord, mais comme quoi le clivage ou en tout cas les bons mots, ça fait réagir. Et j'ai remarqué que vous étiez aussi un grand défenseur de la démocratie représentative. Les gilets jaunes, la participation, l'implication citoyenne, c'est un peu moins votre truc. Vous avez l'impression qu'il y a un risque là-dedans ?
Oui. On l'a bien vu avec les Gilets jaunes. Les Gilets jaunes, c'est une révolte qu'on peut comprendre. Comme d'autres qui ne sont pas Gilets jaunes et qui n'arrivent pas à boucler leur fin de mois, peuvent protester, etc. Donc cette révolte est compréhensible. Mais cette démocratie directe, d'abord, qu'est-ce que c'est la démocratie directe ? Si on dit démocratie directe, ça veut dire que ça représente tout le peuple. Les Gilets jaunes, au plus fort des manifestations, ils ont été 250 000 ou 300 000. Ils ne représentent pas tout le peuple, loin de là. Et donc, c'est quoi la démocratie directe ? C'est la démocratie du groupe de 300 000 personnes qui s'est dit « nous sommes le peuple ». Non, la démocratie directe, c'est tout le peuple. Et si vous
la démocratie représentative, on pourrait vous opposer qu'il y a un taux d'abstention tellement important que la représentativité, elle aussi, peut être discutée.
Aux élections importantes, c'est-à-dire aux présidentielles, aux législatives et tout, vous avez entre 60 et 70% de votants, même si je reconnais que ça baisse.
Mais on peut dire
si vous voulez représenter tout le peuple, c'est un débat qu'il y a depuis Rousseau, Montesquieu,
et
Tocqueville, etc. Mais si vous voulez la démocratie directe, c'est possible dans un canton suisse, vous pouvez faire un référendum de temps en temps, etc. C'est possible à Athènes, il y a 2500 ans, parce qu'il y a 10 000 habitants. Mais quand vous avez 66 millions d'habitants et que vous ne pouvez pas diriger un pays en faisant tous les jours des référendums, des assemblées de 66 millions d'habitants. Donc si vous ne voulez pas que la démocratie directe, la plupart du temps, et là encore, question d'expérience, ça aboutit à la prise du pouvoir par une minorité, bolchevique en URSS, Mao, etc., qui, au nom de la démocratie directe et au nom du peuple, arrive au pire totalitarisme. Parce que la démocratie, à partir d'un certain nombre d'habitants, ne peut être que représentative, ou bien elle ne fonctionne pas, et vous avez un putsch de militants armés, etc. Donc, je ne connais pas d'autre solution. On peut la critiquer, et Dieu sait que je vois bien à quel point elle est critiquée. Voilà, mais il n'y a pas d'autre solution que la démocratie.
Démocratie directe, je comprends votre argumentaire, mais il y a quand même beaucoup de gens qui défendent davantage une démocratie plus participative, sans être jusqu'à la démocratie directe. Je pense notamment à la mise en place de la Convention citoyenne pour le climat. 150 citoyens tirés au sort qui travaillent depuis 2 mois à proposer des mesures pour lutter contre le réchauffement climatique. Comment est-ce que vous voyez le tirage au sort, vous, cette expérimentation-là ? On va dans la bonne direction ? Ça implique les citoyens dans la politique ?
J'ai une vision assez neutre de ça. Je suis ni pour ni contre. Le climat est aujourd'hui un des sujets les plus importants et les plus dramatiques. Il y a de multiples initiatives qui sont faites, de multiples associations, de multiples interventions de politiques ou d'autres, que des gouvernements, que le gouvernement actuel cherche à travers une instance qui pourrait être, la plupart du temps, ce genre d'instance sont des agences qui sont nommées. Qu'au lieu de le nommer, elles disent faisons une expérimentation et essayons de faire quelque chose de représentatif de l'ensemble du peuple, justement, puisqu'ils seront tirés au sort et donc on peut penser que ce sera à peu près représentatif. Moi, je n'y vois pas d'inconvénient. C'est une expérience qu'il va falloir suivre et on va voir ce que ça donne. Par contre, le jour où cette instance proposera un certain nombre de réformes, de lois, etc. Là, il est pour moi fondamental que ces lois ne soient pas votées par une instance de 150 personnes tirées au sort, mais qu'elles soient votées par les 577 députés et les 348 sénateurs qui ont été élus.
C'est ce qui est proposé, c'est ce qui est prévu.
Voilà, voilà, tout à fait. Et ça, ça me gêne pas du tout. Oui.
Mais que les propositions de loi, de réformes, peut-être même de référendum, soient issues d'un processus qui implique les citoyens, vous n'êtes pas opposé.
Pas opposé du tout.
Je dis ça parce que voilà, certains de vos,
et d'ailleurs, oui,
certains
et...
de vos collègues sénateurs que j'ai reçus sur ce canapé étaient, oui, beaucoup plus
non, à partir
critiques
du moment où ce sont des propositions parmi d'autres. Vous avez beaucoup de lois. Elles viennent, par exemple, beaucoup de lois en matière d'agriculture, en matière de sociale, elles viennent des syndicats. Elles viennent des syndicats agricoles, en agriculture, etc. Simplement, les syndicats disent il faudrait faire ça, et le Parlement décide si il entérine telle ou telle réforme ou s'il n'entérine pas. Mais beaucoup de lois viennent de la société civile, d'associations, etc., de propositions. Elles viennent pas toujours ni du gouvernement, ni des députés, ni des sénateurs.
Pour vous, il y a aussi une forme, du coup, de populisme, pour reprendre le mot que vous utilisiez tout à l'heure, dans cette manière qu'ont les citoyens de dépasser les corps intermédiaires et de s'exprimer directement. Je repense au Gilet jaune, le référendum d'initiative citoyenne.
Pas obligatoirement. Non, pour moi, le populisme dangereux, il y a deux dangers du populisme. Il y a le danger du populisme gilet jaune, qui dit on proteste, mais on refuse absolument de se structurer, d'avoir un interlocuteur, de discuter, etc. C'est pas notre truc. Ça ne peut aboutir qu'au pourrissement. C'est-à-dire, vous n'avez pas de responsable, vous n'êtes pas organisé, vous défilez dans la rue, et puis quand vous avez défilé dans la rue tous les samedis pendant 6 mois, qu'est-ce qui se passe ? Il ne se passe rien, et petit à petit... Donc ça, c'est le premier danger du populisme. Ce n'est pas un gros danger, mais c'est le danger de l'inefficacité. Et puis, vous avez un deuxième populisme qui est dangereux, c'est celui qui est évidemment exploité par les tyrans, par les dictateurs, qui se servent non pas du peuple, mais de la foule, pour devenir petit à petit des dictateurs. Vous avez des Salvini, vous avez des Orban, etc., qui se servent de la télé, des médias sociaux, etc., pour exploiter la colère du peuple. Et ça, c'est le populisme dictatorial. Celui-là, il est beaucoup plus dangereux.
On arrive bientôt à la fin de cette émission.
Déjà.
Oui, vous voyez, ça passe vite, oui. Hein, mais j'aurais pu vous interviewer pendant 2 ou 3 heures sur toutes vos activités. Il y avait une question que j'ai vue dans le chat tout à l'heure, quelqu'un qui vous demandait, est-ce que vous ne trouvez pas que l'âge moyen du Sénat est un peu trop élevé ?
De Gaulle est revenu au pouvoir, il devait avoir quelque chose pas loin de 75 ans.
Pas sûr que ce soit le bon exemple.
À l'époque, la France était en train de sombrer dans la guerre civile en Algérie. Il a sauvé la France de la guerre civile en Algérie. Il a fait la décolonisation. Enfin, on ne se rappelle pas. Donc, vous pouvez avoir dans l'histoire, les noms ne me viennent pas en tête. Je ne suis pas certain. Premièrement, je ne suis pas certain que l'âge soit à partir du moment où vous êtes en bonne santé, j'ai pas l'impression d'être gaga.
Je parlais pas forcément de vous, le prenez pas pour vous.
Non, hein, je dois avoir l'âge moyen des sénateurs. Je pense, par rapport à quand j'étais député il y a 20 ans et tout, je crois pas être plus intelligent, moins intelligent, etc. Deuxièmement, je pense qu'on pourrait répondre que l'inexpérience n'est pas non plus un gage d'efficacité. Parce que si on dit il faut que les sénateurs rajeunissent les autres, ça veut dire qu'on va nommer des sénateurs de 20 ans, de 25 ans et tout. Pourquoi pas ? Mais enfin, l'inexpérience n'est pas non plus un gage d'efficacité. Et par ailleurs, et notamment depuis l'abaissement de l'âge minimum pour entrer au Sénat, l'âge moyen des sénateurs a baissé. Et il est en fait, si je me rappelle bien, 3 ans de plus que l'âge moyen de l'Assemblée nationale. Donc voilà, sénateur, peut-être parce que de temps en temps on en voit un très vieux, parce qu'on pense au Sénat romain avec, on dit le sénateur aux tempes blanches,
etc. Il y a effectivement une idée du sénateur qui est un vieux monsieur.
Voilà, vous les invitez, vous en avez vu beaucoup. Moi je vois les 348, il y a des jeunes, il y a des moyens, il y a des plus vieux. J'ai pas l'impression qu'on soit dans une assemblée de séniles.
Non, mais enfin bon, effectivement, vous avez raison, on reçoit sur ce canapé chaque mercredi avec Public Sénat des sénateurs très différents les uns des autres, et c'est le but de cette émission aussi. Mais voilà, c'est pas tant une question d'être gaga ou d'être compétent, c'est aussi une question de représentativité, la manière qu'on voit les sénateurs, on peut se sentir représenté ou pas.
Alors, moi j'ai été député et j'ai été sénateur. Je préfère être sénateur que député. Parce que député, comme on le disait tout à l'heure, c'est vraiment deux armées en présence, deux armées politiques, etc., avec des réflexes très, très, très violents. Les sénateurs, et de ce point de vue-là, c'est peut-être un peu mieux d'être un peu plus âgé et un peu plus expérimenté. Ça se passe beaucoup plus calmement, avec, je dirais, beaucoup plus de sérénité. Je ne veux pas insulter les députés, donc je dis ça avec modération, mais je dis, après tout, avec pas mal de sagesse. Je veux dire, l'âge amène aussi la sagesse. Et deuxièmement, les sénateurs ne représentent pas la même population que les députés. Les sénateurs représentent les élus. Et en fait, ils représentent les maires à 95%. Mmh. Si vous voulez, pour être élu par des maires, vous ne serez pas élu par des maires, sauf sur une liste à la proportionnelle où vous êtes en numéro 5. Mais ce n'est pas le cas pour la plupart des sénateurs. Si vous voulez être élu par des maires, ils vont élire des gens qu'ils connaissent. La plupart du temps, des sénateurs, c'est d'anciens maires. Et leurs collègues, quand ils vont faire leur campagne électorale, ils se présentent pour défendre les territoires, ils se présentent pour défendre les maires, et les maires, ils ont bien entendu tendance à voter pour des gens qui ont la même expérience qu'eux et qui les connaissent, qui connaissent leur terrain. Et pour ça, il faut avoir été maire un certain nombre de temps. Donc, mécaniquement, ça fait que les sénateurs sont plutôt plus âgés que les députés.
C'est déjà la fin de cette émission. Merci beaucoup Claude Maluret d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous d'avoir posé vos questions. Je rappelle que vous retrouverez cette émission en replay sur Public Sénat, en podcast et bientôt sur les réseaux sociaux avec des best-of. Merci beaucoup aux modérateurs et à toutes les questions que vous avez posées. La semaine prochaine, on recevra, si je ne dis pas de bêtises, attendez, je vais retrouver. On recevra la semaine prochaine, hop, Nathalie Delattre. Sénatrice de la Gironde, exactement. Mmh. Et elle répondra à vos questions. Ce sera mercredi prochain à 17h. Je vous dis merci à toutes et à tous. Bonne fin de journée. Au revoir.
Merci à vous.